Nous allons parler des mots, de la passion des mots, de la passion de la politique, parce que notre invitée est Christiane Taubira. Bonjour Christiane Taubira.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin. Vous êtes ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice. Vous publiez un livre intitulé « Nous habitons la Terre » avec une grande attention portée aux phrases, avec un amour évident de la poésie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous faire entendre du Aragon. Aragon parlant de la poésie et de la politique.
Très souvent, les gens m'ont posé la question, qu'est-ce que vous êtes d'abord ? Écrivain ou bien machin chouette ? À quoi j'ai toujours répondu, écrivain. Et c'est vrai, ça choque, j'ai des camarades que ça choque énormément que je dise une chose pareille. Mais mes idées politiques proviennent du fait d'un homme défini par ce qu'il fait dans la vie. Par le fait qu'il écrit. Et c'est parce que j'écris que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais non pas le contraire.
J'ai un peu envie de vous poser la même question, Christiane Taubira. Est-ce que vous êtes une femme politique ? Est-ce que vous tentez, en quelque sorte, d'écarter la politique pour développer l'amour des mots ? Ou bien vous avez toujours fait les deux choses en même temps ?
Les deux d'abord, parce que je refuse d'être une femme unidimensionnelle. Clin d'œil, évidemment, que vous avez reconnu.
À Marcuse ? Et, sur l'homme unidimensionnel ?
Absolument. Non, je pense que d'abord, à la fois le souci des autres, l'engagement, l'écoute, le plaisir aussi de la relation, d'une part, et d'autre part, l'amour pour la langue, la littérature exerce sur moi une séduction qui remonte à l'époque où j'ai appris à lire. Donc tout cela va de concert, c'est-à-dire que je serais mal à l'aise si on m'amputait d'une partie de moi-même, soit en m'interdisant de me préoccuper des questions politiques et de me mêler de la parole publique, soit en m'empêchant de lire. Moi j'ai eu des périodes où j'ai eu du mal à lire parce que j'étais dans des situations où je n'avais rien à lire et où je sais que ça agit sur mon caractère. Donc voilà, et ça n'est pas, évidemment, ça n'est ni génétique ni psychologique, c'est juste que c'est vital, la littérature est vitale.
La littérature et l'art plus généralement, puisque vous insistez beaucoup dans ce livre « Nous habitons la Terre » sur vos références, elles vont de Chagall à Zola, en passant par Léris, Meyassou, bref... On voit qu'il y a quand même une grande proximité chez vous entre l'art et la réflexion politique.
J'ai voyagé d'abord par les livres, à travers les livres. J'ai découvert le monde à travers les livres. J'ai découvert la complexité du monde, sa richesse, son insondable diversité à travers la littérature. Par conséquent, voilà, cela m'a structurée, cela m'a construite. Et c'est vrai que ce voyage à travers le monde et à travers le temps m'a permis de découvrir ces auteurs et de comprendre qu'il y a une espèce de... Il y a une communauté humaine. Je crois que je porte en moi la conviction, depuis que je suis enfant, qu'il existe une communauté humaine parce que des femmes, des hommes de cultures et d'époques différentes m'ont procuré tellement de bonheur et m'ont ouvert des perspectives tellement, tellement immenses.
On va parler de culture, de votre culture, puisque nous sommes sur France Culture, Christiane Taubira. Je vais vous faire entendre un certain nombre de poètes, de références artistiques qui vous sont chères. Et puis on va parler aussi un peu de politique avec mon camarade Frédéric Seyss du service politique, qui est ici dans ce studio. Une phrase tirée de « Nous habitons la Terre ». Vous parlez de la parole publique qui, je vous cite, « s'étale abrupte, portée du plus haut sous un quinquennat de grande brutalité ». Expliquez-nous ce que vous avez voulu dire par cela, « quinquennat de grande brutalité ».
Le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été un quinquennat de grande brutalité. Le président Sarkozy lui-même, a commencé par brutaliser la langue. Il a brutalisé la langue. Il lui donnait des coups de hache chaque fois qu'il s'exprimait. Et ce qui était le plus terrible, c'était de constater au bout d'un moment, peut-être au bout de plusieurs mois, qu'en fait, c'était délibéré. Donc, il avait fait une déclaration d'hostilité à la langue. Alors, on se souvient aussi de son propos méprisant sur la princesse de Clèves et d'une façon générale sur la littérature. Mais lui-même, dans sa pratique quotidienne, c'est-à-dire qu'il a organisé délibérément une rupture entre la politique qui est extraordinairement noble parce qu'elle se mêle de la vie de la cité, elle se mêle d'améliorer la vie des gens, elle se mêle d'entendre, de se préoccuper des gens, d'écouter les gens, de répondre, d'avancer avec eux. Elle se mêle de ça, la politique, et pour cela, évidemment, elle a besoin du premier instrument de relation, de communication, c'est-à-dire la langue, parler aux autres, et parler aux autres proprement, j'allais dire, c'est-à-dire avec une langue belle, qui met ses plus beaux atours lorsqu'on s'adresse aux autres, c'est une marque de respect. C'est une marque de respect. C'est un signe de convivialité. Et il a cassé tout cela et délibérément. Donc c'était effectivement un quinquennat de grande brutalité vis-à-vis de la langue d'abord, donc vis-à-vis de la relation au sein de la société. Et puis c'était un quinquennat de grande brutalité parce que, voilà, bon, je veux dire, toutes les marques de parvenus, de nouveaux riches, qui méprisent les petits, sa politique fiscale en faveur des nantis avec des tas d'exonérations, mais en cognant sur les foyers modestes et notamment sur la classe moyenne, cette arrogance permanente, oui, ça a été un quinquennat de grande, grande brutalité.
Et pensez-vous que le quinquennat de François Hollande vis-à-vis de la langue ait fait mieux, puisque certains auraient peut-être voulu que ce soit un quinquennat plus littéraire, plus culturel, qui ait plus d'attention portée aux mots? Christiane Taubira.
En tout cas, chacun a son langage, donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un, par exemple, son vocabulaire, la construction de ses phrases. Chacun a son langage. Nous ne sommes absolument pas dans le même univers, absolument pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez un président de la République qui décide délibérément de casser la langue, qui est notre bien commun, notre patrimoine commun, et puis d'autres personnes dont vous pouvez penser que la langue pourrait être un peu plus scandée, qu'elle pourrait être rythmée différemment, que le vocabulaire pourrait puiser ailleurs, etc. Ça n'est absolument pas la même chose. Le rapport à la langue n'a rien à voir sous le quinquennat de François Hollande.
Frédéric Saïs.
Question de langue et donc de dialogue. Christiane Taubira, on voit des mouvements qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques semaines dans cette campagne présidentielle, dans cette vie politique française. François Bayrou qui renonce et qui s'allie à Emmanuel Macron. Question de dialogue aussi à gauche, évidemment, entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Pour l'instant, les deux candidats n'arrivent pas à se parler vraiment. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin, vous, la femme de gauche qui place ses espérances dans un futur désirable ?
Alors, ce que je leur dis à eux directement. Moi, il me paraît plus important, justement, en matière politique, dans le domaine politique, de dire à nous, à tous. Et ce qui est important, donc, ce qu'ils doivent entendre, c'est ce qui vibre dans la société. Si j'ai quelque chose à leur dire publiquement, ce serait ça. Écoutons ensemble la société, regardons ensemble les aspirations profondes des Français et mesurons ensemble la maturité de celles et de ceux qui croient qu'effectivement la politique intervient. Et la politique intervient. Et surtout chez les gens qui vous disent que la politique, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de nuance, et que voilà, c'est du pragmatisme, ce sont des choix techniques. Non, ils font de la politique. Ils font de la politique. Je ne pense pas à une seule personne. C'est tout un courant, c'est tout un mouvement qui a envahi la politique. Mmh. Il y a eu une prise de pouvoir. La politique a été capturée par des personnes qui prétendent faire du pragmatisme et qui en fait font de la politique parce que ce sont des choix de société, ce sont des choix de rapports sociaux, ce sont des choix de déséquilibre, de désordre qui constitue un ordre pour eux, etc. Donc voilà, il y a des porte-paroles particuliers, mais je ne vise pas que les porte-paroles. Moi, je me bats contre ça. Je ne veux pas ni un monde de brutalité, un monde de violence, un monde d'inégalité, un monde où on est indifférent aux plus vulnérables, un monde où on écrase la tête des plus faibles, un monde où on vient avec arrogance. Enfin, quand même, pendant ces dernières années, on a bien vu les efforts qui ont été demandés à certains, les efforts qui ont été faits envers certains, et puis la tranquillité avec laquelle on lit que les dividendes ont augmenté de 11%. Quoi.
Pourquoi ne pas vous être présenté? On entend presque une candidate dans vos propos, qui a d'ailleurs fait consensus, l'une des rares personnalités qui a fait consensus à gauche pendant ce quinquennat.
Ce n'est pas une candidate que vous entendez. Vous entendez la passion d'une personne qui aime les gens, qui aime la vie, qui croit que la vie n'est pas une fatalité et qui ne se résigne pas. Je ne me suis pas présentée parce que je veux dire que plus les jours vont avancer, plus les gens vont comprendre aussi pourquoi je ne me suis pas présentée. Je suis assez tranquille là-dessus. Mais je l'ai dit depuis des mois. Mais écoutez, nous, la gauche, nous sommes au pouvoir. La gauche, nous savons, elle est composée de sensibilités différentes. et elle a été composée de ces sensibilités différentes. Il y avait 4 groupes de gauche au Parlement. C'est une réalité, et c'est une réalité consubstantielle même à la gauche, et j'allais presque dire à la politique, parce qu'il y a aussi des nuances à l'intérieur du camp de droite républicain. Mais donc, c'est pas comme ça qu'il fallait y aller. Ça fait un an que je le dis. Il fallait travailler ensemble à construire ce que nous allions dire aux Français, aussi bien en termes d'action conduite au gouvernement et au Parlement, qu'en termes d'engagement pour continuer à améliorer la vie des uns et des autres. Donc voilà, c'était l'histoire d'aller s'aligner dans une compétition, de montrer que chacun a le plus fort et le plus malin.
La primaire.
Ça, j'aurais su faire. Sauf que je reste persuadée que ce n'est absolument pas ce qu'il y avait à faire. Et aujourd'hui, si nous avons l'air d'être dans une impasse, et j'espère que nous n'en avons que l'air, c'est parce que justement la méthode est mauvaise depuis un moment.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait employer comme méthode, Christiane Taubira, justement? Vous avez des mots d'ailleurs assez durs sur la gauche. Vous dites qu'elle a cédé sur l'humanisme dans le vocabulaire, et qu'elle affémine de ne plus s'en réclamer, je vous cite, de ne plus s'en inspirer, ni dans la parole politique, ni dans les programmes électoraux. Pour vous,
C'est une réalité. Je dis sans fioriture, je dis sans hypocrisie, je dis sans ambiguïté, ce qui est. Et plus on aime, plus on châtie clairement pour en sortir. C'est une réalité que la gauche ne parle plus d'humanisme. En tout cas, que la parole de gauche qui s'impose comme parole de gauche n'est pas une parole portée par l'humanisme, qui assume l'humanisme. Et nous avons eu des circonstances où nous avons vu que ceux qui parlaient au nom de la gauche avaient bien rompu avec cet humanisme. La question des sans-abri, la question des personnes pauvres, la question des personnes exclues, la question des personnes dans des campements, la question des réfugiés, tout ça, ce sont des moments, des épreuves de vérité sur la question de l'humanisme. Mais l'humanisme doit inspirer nos politiques publiques dans la société au quotidien. La façon de favoriser certaines filières économiques plutôt que d'autres, certains modes d'organisation économique plutôt que d'autres, d'établir des relations avec à l'intérieur de l'Europe ou avec d'autres pays, tout ça, c'est l'humanisme qui l'inspire.
Frédéric
ne l'inspire 16, pas.
Sur l'humanisme, vous avez été rapporteur de la loi de 2001 qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron a eu raison de reprendre ce terme, crime contre l'humanité, pour qualifier la colonisation en Algérie ?
La traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. C'est reconnu par le Parlement français. La colonisation est un autre processus, d'une autre part, c'est la deuxième période des conquêtes coloniales. La colonisation, c'est incontestablement des histoires de crimes, des histoires de meurtres de masse, des histoires d'amputation, des histoires de viol, des histoires de confiscation de territoire, de pillage de ressources, de travail forcé. C'est une entreprise dans sa nature même, qui est très clairement décrite dans le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, dans sa nature même. Ça n'est pas une mise en contact de civilisation et de culture, ça n'est pas une relation entre les communautés humaines, ça n'est pas un moment de rencontre. Césaire lui-même dit, de toutes les mises en contact, c'est la pire. C'est la pire.
Mais ça n'est pas non plus un crime contre l'humanité, si on vous entend bien.
Je ne viens pas. Non, mais je ne veux pas. Moi, attendez, Monsieur Macron, lâche une phrase. On n'est pas sûr qu'il y ait pensé avant de la lâcher. On n'est pas sûr qu'il ait exploré, ni du point de vue juridique, ni du point de vue éthique, ni du point de vue politique, ni du point de vue historique, ni du point de vue culturel. Et moi, je me retrouve tous les jours à commenter le propos de Monsieur Macron.
Ça amène de la confusion.
Sur un sujet aussi lourd, des millions de morts, le monde complètement refiguré. Des relations entre 3 continents complètement bouleversées. Et voilà, parce que M. Macron, à un moment d'inspiration ou de non-inspiration, lâche une phrase. Des sujets aussi lourds deviennent, voilà, comme ça, un sujet d'actualité sur lequel toute la journée on demande à Taubira. Et puis on va s'étonner que Taubira s'énerve en plus.
Non, moi je vais vous demander autre chose, Christiane Taubira. Je vais vous parler justement de ce que vous appelez les chicanes.
Mais je m'énerve avec un grand sourire vis-à-vis de vous. Hein.
Oui, et puis vous répondez très bien sur la confusion que ça peut
mais...
induire.
Non, mais vous avez le droit aussi de m'énerver.
C'est quand même terrible. Non, mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc ça fait 15 jours qu'on en est. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que c'est une question d'avoir raison, de pas raison? Les crimes contre l'humanité, ils existent. Ils sont monstrueux. Et on en a tellement conscience qu'on a décidé, non pas seulement de se pencher sur les crimes contre l'humanité du passé, mais d'être en capacité de sanctionner ceux qui commettent des crimes contre l'humanité dans le présent, avec l'instauration de la Cour pénale internationale. Donc voilà, c'est pas une phrase qu'on lâche parce qu'on est en campagne électorale, c'est juste monstrueux.
Moi, justement, je voulais vous faire commenter du Taubira. Chicane bruyante, vous dites que c'est principalement cela qui a fait obstacle à la réflexion sur la laïcité. Et on a l'impression que le débat politique est justement de plus en plus englué dans ce que vous appelez des chicanes bruyantes, des petites phrases, saillies qui, comme vous l'avez dit au sujet de celles que vous ne vouliez pas commenter, on ne sait même pas dans quelle mesure elles sont pensées, ce qui veut dire que là aussi, c'est un signe d'épuisement non seulement du langage, mais aussi tout simplement de la politique et de son discours, Christiane Taubira.
Oui, il y a à la fois un épuisement du langage, parce que si nous ne renouvelons pas, le monde, il vit, il change, il se transforme. Il se transforme pas comme ça, là, par une transcendance. Il se transforme parce que les femmes, les hommes, organisent leur vie, agissent, réagissent, projettent, que les connaissances se développent, que la science se développe, les techniques se développent, changent nos modes de vie, nos pratiques économiques, professionnelles. Donc tout ça fait que nous sommes devant ça. Et la gauche doit continuer de génération en génération, à produire des concepts utiles, mais surtout d'abord une pensée.
Dans la pensée de Benoît Hamon, est-ce qu'il développe, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent utiles? Le revenu universel, est-ce que par exemple ça, c'est une mesure qui vous paraît en phase avec l'humanisme de gauche, Christiane Taubira?
Mais la méthode elle-même, oui, la méthode elle-même est déjà en phase. C'est-à-dire, il dit, la société a changé et elle va continuer à changer. Il y a des bouleversements. La technologie marque une empreinte sans précédent sur nos vies individuelles et nos vies collectives. Donc nous ne devons pas penser le monde comme nous l'avons connu au 19e siècle et même au début du 20e. Nous devons penser le monde tel qu'il va devenir. Donc la méthode elle-même, évidemment, elle est en phase. C'est cela l'humanisme. L'humanisme, c'est penser notre organisation à partir des personnes. Que deviennent les gens? Et ce qui écrase les gens, comment on peut maîtriser ce qui écrase les gens? Et puis après, évidemment, on peut proposer des méthodes, des solutions, le revenu universel, ses modalités, on peut se disputer dessus. Mais voilà, il y a déjà le fait de penser que la société est en train de changer et que ça ne va pas s'arrêter demain matin.
Frédéric Seize.
Oui, une question autour de votre expérience de ministre. Vous en avez beaucoup parlé dans les interviews. Quand vous avez été confronté à des propos abjects, vous en avez tiré une leçon plus générale sur la société française. Vous dites, je crois, la société française vis-à-vis de ces questions a perdu ses anticorps. Qu'est-ce que cela veut dire exactement et pourquoi?
Ça veut dire que moi j'ai été étonnée, je l'avais dit à l'époque, qu'il ne s'élève pas de grandes et belles voix pour protester contre ça, parce que je sais que la société française, elle a été travaillée pendant des dizaines d'années, des siècles même, par des démons, de vieux démons. On peut remonter à toutes les périodes, on retrouve des expressions antisémites, paroxystiques, qui aboutissent quand même à la collaboration avec l'Allemagne nazie. On trouve des moments de racisme, on trouve des théories très construites à l'époque de l'esclavage sur la hiérarchie des races. On entend ces choses-là revenir, on les a entendues en 2005 lors de la fameuse loi qui reconnaissait les bienfaits de la colonisation. Donc, à toutes les périodes de l'histoire, on peut trouver ça. Mais on a toujours trouvé aussi, au même moment, des personnes pour dire que c'est insupportable. À l'époque de la traite négrière et de l'esclavage, il y avait aussi bien des citoyens ordinaires que des philosophes, des femmes et des hommes politiques pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Pourtant, c'était une activité d'État. Donc voilà, et puis là, je me rends compte que ça se généralise, ça se diffuse, et il n'y a pas de belles voix qui s'élèvent. Alors que je sais que dans la société, il y a des gens qui ne sont pas d'accord.
On va faire s'élever une belle voix, celle d'Amélie Perrier pour le journal. Vous restez avec nous. Christiane Taubira, Nous habitons la Terre, c'est l'ouvrage que vous publiez. On va vous faire réagir à l'actualité. Il est 8h sur France Culture.